c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à vous tous, auditeurs d'Altitude FM. Nous sommes à la période anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 et précisément cette année, 80 ans après ce grand événement. On en parle dans tous les médias et on le raconte, parfois en enjolivant, parfois en insistant sur l'aspect dramatique au sens des pertes humaines, parfois en relevant le courage et l'abnégation des soldats débarquant sous le feu de la mitraille, parfois en mettant en avant l'organisation et la coordination des troupes, pas toujours évidente. Il est impossible de raconter le débarquement dans son entièreté en donnant à chaque intervenant la place, forcément énorme, qui doit lui revenir. Pour ma part, je voudrais ici m'en tenir, comme vous pouvez le penser, à l'importance de tout ce qui est aérien dans l'opération et sa préparation. Cette formule me permet d'englober tout ce qui est au-dessus du sol, si l'on me permet cette expression. Je ne peux pas pour autant ne pas évoquer la marine, bien sûr, ses bâtiments de guerre, ses engins de débarquement et, on en parle peut-être moins, ce qui est une erreur, les sous-marins, qui, dans les deux camps, ont eu une action essentielle. De la même façon, comment ne pas parler de l'action au sol, du courage de la population et, bien évidemment, du rôle essentiel de la résistance. Cependant, ce n'est pas ici le propos de ma chronique. D'abord, je voudrais mettre en ordre les étapes historiques et leur chronologie. Très souvent, dans l'approche des choses et pour une grande majorité des populations, le débarquement du 6 juin se confond avec la libération du territoire de la France et de la partie la plus occidentale de l'Europe. Le débarquement de Normandie est la suite très importante et l'étape incontournable d'un très long processus qu'il faut toujours étudier à la lumière de cette grande période passée depuis et des moyens existants à l'époque dans les multiples domaines des transports, des communications, sans oublier la météo qui a pu jouer un rôle très important au regard des prévisions et de l'incertitude qui les accompagne. La compréhension, voire le jugement de l'auditeur ou d'un lecteur face au déroulement des opérations, notamment les retards apparents, les erreurs parfois dramatiques, les tactiques de certains intervenants peuvent être différentes ou même opposées à celles d'autres. Globalement, la cohérence est parfois prise en défaut. En même temps, cette guerre que, à juste titre, on qualifie de mondiale, a eu de multiples théâtres d'opérations, y compris sur d'autres continents que l'Europe. Ils ont mobilisé un nombre considérable d'hommes, de quantités gigantesques de matériel de tous ordres, terrestre, aérien, maritime, pas toujours disponibles là où il y en avait besoin. Les médias racontent en général avec détail le déroulé de l'opération de débarquement, avec des images saisissantes de l'époque et aussi des reconstitutions et des films fameux. Leurs récits et les images vont forcément dans le sens de ce que le réalisateur veut mettre en avant avec un scénario construit en conséquence, mais en toute bonne foi. La précision historique peut en souffrir, et il n'est pas toujours facile lorsque l'on parle des mouvements populaires ou d'actes héroïques individuels ou d'exploits de groupe. Il n'est pas évident de citer avec la même approche selon que l'on parle de l'un des camps ou de celui de l'autre côté. Pourtant, tous ont eu la même importance, le même effet. Pour rester, après cette sorte d'avertissement, sur le sujet du débarquement, il faut bien préciser que cette forme d'invasion, pour la bonne cause, invasion donc de l'Europe par les forces alliées, est sans conteste la plus grande opération jamais réalisée dans l'histoire, avec la mise en œuvre de véhicules, bateaux et avions de toute nature et dimension. Et c'est la conjugaison de tous ces moyens, se complémentant le mieux possible, qui a pu permettre l'efficacité et le succès de l'opération. Aucun des moyens, donc, terrestres, aériens ou maritimes, ne pouvait à lui seul permettre cela. Le secteur aéronautique pour ce débarquement, sur lequel je souhaitais me concentrer, a mis en œuvre de multiples moyens, certains bien évidents, notamment les avions sous leurs aspects divers, c'est-à-dire avions légers d'observation, chasseurs, bombardiers lourds, transporteurs à largeur de parachutistes et de charges parachutées. On connaît moins l'importance des planeurs, mais qui sait le rôle joué par les ballons captifs largement utilisés au-dessus des plages. Tous ces types d'aéronefs ont été utilisés tour à tour. Certains sont définitivement connus et célèbres, d'autres le sont moins. Volontairement, je n'en citerai que peu de noms et ce ne sera évidemment pas limitatif. Ils seront mis en œuvre dans un ordre précis et stratégiquement déterminé. Parlons tout d'abord des bombardements, et ici des bombardements alliés et donc des bombardiers. Certains ont largement précédé le débarquement et ils avaient pour but essentiel et stratégique d'attaquer, de détruire et de disloquer sur le territoire tout ce qui permettait la fabrication d'armements et donc de détruire les usines occupées ou travaillant sous les ordres de l'occupant. On peut citer deux des plus remarquables bombardiers anglais, les Avro Lancaster et les Halifax. Pour eux, il s'agissait aussi de rendre difficile le transport et l'acheminement de tous les matériels, d'empêcher, ou plutôt de compliquer sa progression en rendant les routes impraticables et notamment en détruisant les ponts. Le but est de faire obstacle à l'arrivée massive de renforts pour l'ennemi avec ses troupes et ses matériels une fois que le déclenchement de ce débarquement, qui se voulait surprise, se manifesterait. Ces bombardements étaient donc en profondeur sur le territoire français, puisque l'ennemi devait envoyer ses renforts de régions plus éloignées, des secteurs est et sud. La difficulté était en même temps de ne pas perdre de vue que la progression des troupes alliées débarquées devrait passer dans l'autre sens et par les mêmes voies. Pour protéger les gros bombardiers, qui sont les proies visibles de loin et n'ont pas beaucoup de possibilités de défense, par leur manœuvrabilité réduite, même s'ils ont de grosses capacités d'autodéfense par les mitraillages sur tous les axes, depuis des postes de tir, latéraux, sur le toit, dans le nez, dans la queue et parfois sous le fuselage. Les chasseurs les escortent de près et aussi à distance pour pouvoir intervenir rapidement, mais par surprise, si une attaque intervient sur le bombardier. Les plus remarqués des chasseurs côté allié sont sans doute les Spitfire et les P-51, et côté adverse, les Messerschmitt 109 et les Fokker-Wulf. Il y a alors ces malheureux mais célèbres combats aériens entre chasseurs français, anglais et allemands, et souvent mis en scène et devenus spectaculaires. Ces chasseurs ne se contentent pas d'escorter les bombardiers et de les protéger. Ils sont chargés aussi d'attaquer les bombardiers ennemis, et notamment lors du débarquement. Ces bombardiers, dans ce cas, procèdent en piqué, contrairement à ceux qui pilonnent depuis des altitudes élevées sur des objectifs de masse. Lorsqu'un bombardier procède en piqué, il plonge donc quasiment à la verticale, et c'est pour avoir une meilleure précision en adoptant la même trajectoire que celle qu'il veut donner à la bombe. En fait, le chasseur ne peut pas grand-chose à ce moment-là si ce n'est de le suivre. En revanche, lorsque le bombardier a largué ses bombes à très basse altitude et qu'il redresse pour ne pas percuter le sol ou la mer s'il vise un bateau, il manque de puissance et perd de l'énergie. Il devient à cet instant très vulnérable par le chasseur qui a suivi sa trajectoire et qui est beaucoup plus manœuvrant que lui. Une intervention qui est beaucoup moins connue est celle des planeurs, notamment les planeurs de transport de soldats. Mis en œuvre pour diverses raisons, ils ont évidemment l'avantage du presque silence. Tirés par de gros avions, ils étaient largués assez loin du but visé. Relativement légers du fait d'une construction simple, ils n'étaient pas trop facilement repérables. Cette construction légère faisait qu'ils étaient simples à construire, pas trop coûteux et étaient quasiment sacrifiés. Effectivement, ils étaient fragiles, risquaient de causer des blessures s'il y avait un atterrissage difficile. et ils étaient aussi très vulnérables à ce que l'on a appelé les asperges de Rommel. Ce sont des pieux fichés dans le sol par l'ennemi dans les espaces susceptibles d'être utilisés comme terrain d'atterrissage. Ces planeurs, suivant le modèle, pouvaient transporter, en plus du pilote et du copilote, de 12 à 25 hommes tout équipés. Les plus connus sont les Waco et les Orsa. Du fait que le but était de se poser au sol et de débarquer des soldats transportés, ceux-ci n'étaient pas forcément des parachutistes aguerris et la plupart n'avaient jamais sauté d'un avion. Ceci constituait une sérieuse économie de formation et d'entraînement. Ces planeurs étaient remorqués généralement par les fameux C-47, appelés Skytrain par l'US Air Force lorsque les forces aéroportées sont créées à partir de 1942. Nous les connaissons sans doute mieux sous leur nom de DC-3 du fabricant américain McDonnell, et sans doute encore mieux sous le petit nom donné au départ par les Anglais, les Dakota. Ce nom d'ailleurs n'évoque pas a priori les États éponymes du nord et du sud des États-Unis, mais plutôt l'acronyme Douglas Aircraft Company Transport Aircraft. Citer cet avion emblématique, transport de troupes et de matériel, tracteur de planeur, permet tout naturellement de continuer à parler des parachutages. Si les planeurs ne transportaient pas forcément généralement de parachutistes, le DC-3 s'est brillamment illustré par le lâchage massif de parachutistes, non seulement près de la côte, mais également vers l'intérieur des terres pour préparer le terrain et faciliter la progression des troupes arrivées par la mer. On a eu des images impressionnantes d'arrivées au sol ou sur un clocher de ces parachutistes, images authentiques parfois ou reconstituées dans les évocations. J'ajouterai que le parachutage a joué à un autre moment un rôle moins connu et qui pourrait paraître comme une anecdote, mais en réalité important pendant une période précédant les quelques mois, le débarquement. Il est bien clair que l'ennemi ne pouvait pas ignorer qu'un débarquement allié, comme il y en avait déjà eu ailleurs, était logique et même inévitable sur la côte ouest du continent. La logique était que le point de départ ne soit pas trop éloigné, ce qui limitait malgré tout les possibilités. Mais le problème était, pour l'occupant, d'en connaître le ou les lieux, d'autant que les alliés eux-mêmes hésitaient. Il y a donc eu de nombreuses manœuvres d'intoxication, de simulation. Outre de faux tanks en caoutchouc et des messages toxiques, il y a eu un largage 2 jours avant de plus de 500 parachutistes, nettement plus loin de la zone convenue, dans le secteur d'Yvetot et de Saint-Lô. Mais en réalité, cette opération d'envergure était bien une intoxication, car ces parachutistes n'étaient en fait que des mannequins ou poupées, appelées familièrement repertes, bourrées de paille et remplies de charges explosives pour faire du bruit comme lors d'une attaque. Un dernier point de l'importance de l'intervention aérienne, peut-être moins connue mais très permanente sur le secteur du débarquement proprement dit, est celui des ballons captifs. Ce sont d'énormes ballons, généralement ovales, reliés au sol par des filins d'acier avec un système d'enroulement et de déroulement comme un treuil depuis le sol, permettant de les envoyer en altitude et d'en faire varier cette altitude si besoin. Le but en était de prévenir et d'empêcher les attaques aériennes à basse altitude, puisque positionnées au-dessus des bateaux de débarquement et des troupes. La vue depuis les avions bombardiers, notamment ceux qui opéraient en piqué, était très perturbée et l'approche compliquée, y compris pour les chasseurs. De plus, les câbles d'acier constituaient un obstacle fatal en cas d'accrochage, d'autant qu'il était courant de relier plusieurs câbles entre eux pour constituer une sorte de filet. L'efficacité du système restait relative, mais il faut bien considérer que les éléments de défense de tous ordres se complétaient et ont permis de rendre les opérations efficaces et de limiter les pertes malheureusement, on le sait, bien énorme. À un prix très élevé, ces moyens conjugués ont fait du débarquement un succès et une étape décisive vers la libération des territoires et la paix revenue. J'espère que mon intervention, lorsque vous verrez des reportages sur le débarquement, vous aidera à en comprendre son déroulement et comment se situe cet épisode essentiel dans le processus de la libération du pays. Merci de votre attention et à bientôt.